on dit en allemand, j'ai appris cette expression à Zurich justement, on dit que le dernier d'un groupe, c'est celui que mordent les chiens. Et puis ce matin, on attend le 8e sur 8 enseignants, qui parle plus ou moins du même paragraphe dans l'épître de Timothée. J'ai un petit peu l'impression que mon sujet a été un petit peu mordillé de partout. Et je dirais que j'ai tellement bien mordillé que j'ose à peine attaquer le reste. Alors, je vais quand même vous lire le verset dans 1 Timothée 4, le dernier verset de ce paragraphe qui a été choisi par Boyle. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant en cela. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Alors, beaucoup a déjà été dit, et j'aimerais essayer un peu un wrap-up, comme on dit en anglais. En replantant le contexte, on nous a parlé Marc, mercredi, qui est Éphèse. Et Éphèse, aujourd'hui, si vous y allez, c'est pas Éphèse de l'époque de Timothée. C'est pas un site touristique avec quelques marchands de cartes postales. Éphèse, c'était la capitale de l'Asie. C'était une ville d'une richesse et d'une influence énorme. C'était une des trois ou quatre plus importantes villes de la terre habitée, comme le disaient les Grecs à l'époque, de la Méditerranée, qui était le centre du monde. Éphèse, c'était un centre portuaire où affluaient des cargaisons, où s'enrichissaient des marchands. Et comme souvent, avec la richesse venait aussi d'autres choses, comme les arts. Il y avait des artistes, des philosophes, des orateurs, mais il y avait aussi des perversités. La prostitution, l'idolâtrie. Vous vous rappelez peut-être qu'à Éphèse, c'est là que les premiers chrétiens ont été accueillis violemment. Vous vous rappelez peut-être du culte d'Artémis et de l'esclandre provoqué par Démétrius à l'arrivée des chrétiens, de Paul notamment. Éphèse, c'était une ville qui avait un rayonnement extraordinaire et c'est pas par hasard que Paul ciblait Éphèse. Éphèse, c'était le New York d'aujourd'hui. Peut-être le Hong Kong. C'était une ville de cette ampleur. C'était bon la mer comme Marseille, mais c'était plus important que Marseille. C'était plus intellectuel que Paris à notre échelle. C'était plus riche que Genève ou Lausanne. C'était la somme de tout ça en encore plus important. Et alors pour les chrétiens, Éphèse, c'était pas facile parce que la plupart des convertis, des premiers convertis, étaient soit des juifs, soit ceux qui adoraient probablement le culte d'Artémis. Et il y avait toutes sortes de choses dans cette assemblée. On est déduit d'après les épîtres de Paul à Timothée, d'après les actes, d'après la lettre aux Éphésiens. Il y avait toutes sortes de couches de la population, même des riches, puisque Paul dit à Timothée de encourager les riches à donner. Il y avait des intellectuels, il y avait tout. Alors les défis qui font face à l'Église sont énormes. Et pour Timothée, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est très dur, c'est pour ça que il peut avoir peur de sa jeunesse parce qu'il a en face de lui des défis importants. Il faut assimiler ces différents membres de l'Église, de l'Assemblée, très différents, qui ont un passé, des croyances très différentes. Il faut structurer la direction de l'Église et puis il faut préparer, enseigner face notamment à la montée de fausses doctrines dont certaines vont encore survenir après. Alors imaginons là ce Timothée, ce jeune Timothée, on ne sait pas exactement l'âge qu'il avait, on pense peut-être 25 ans, peut-être un petit peu plus, dans ce bord de la mer, dans cette ville de toutes les tentations, de tous les succès aussi, mais de toutes les tentations, ville matérialiste, ville d'immoralité aussi. Et ce Timothée, il devait être doué, on le sent à travers les écrits, il avait le choix d'une vie. Comme tous les jeunes hommes célibataires de l'époque à Éphèse, ils pouvaient profiter de la vie, ils pouvaient jouir de la vie, fonder une famille, avoir des enfants, s'enrichir, devenir puissant, célèbre. Et peut-être que Timothée a été déchiré entre ses tentations du monde et puis ce qu'il sentait être sa conviction et son sens du devoir. Alors Paul lui écrit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement ». Et le mot grec qui est utilisé ici, « épère », veut dire, pas seulement veiller, mais ça veut dire « tiens-toi ferme, tiens-toi attaché, agrippe-toi, agrippe-toi à ta vie chrétienne. » Et un petit peu comme on s'agrippe en bateau. En bateau, mon père me dit toujours « une main pour toi, une main pour le bateau. » parce que ça sert à rien si tu gicles par-dessus bord. Au moins pour toi. Agrippe-toi à ta vie chrétienne. Et ça me fait penser à, je ne sais pas si vous aimez la voile, mais Dominique Vavre, c'est un de nos petits marins suisses. Il était comme troisième à la course du monde, aux courses autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Et il m'a raconté que quand il est dans le Pacifique Sud, il y a des heures, des heures, des heures du prochain bateau qui peut venir le secourir. S'il ne s'agrippe pas à son bateau avec son harnais de sécurité, son espérance de vie, c'est à peu près 3 minutes. Alors, Paul dit à Timothée, agrippe-toi à ta vie de chrétien. N'hésite pas, sois sans reproche. Paul dira aux Romains, je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Et Timothée n'est pas immunisé contre ce syndrome de ne pas faire le bien qu'il aimerait faire. Il doit se tenir ferme, rester irréprochable. Et vous savez que ce thème de tenir ferme, de garder le dépôt, comme dit Paul, de rester irréprochable, Paul le mentionnera 14 fois dans ses deux épîtres. Quelqu'un parlait de statistiques, je crois que c'était David l'autre jour. 14 fois, il parle de ça en 10 chapitres. C'est beaucoup, hein, plus qu'une fois par chapitre. Je pense que ça doit nous faire réaliser à quel point c'était pas évident de rester fidèle. On sait que Satan rôdait déjà à l'époque, comme un lion. Et pour illustrer le fait que c'était pas évident, Paul parle de nombreux chrétiens qui sont tombés. Déjà à l'époque, et pas n'importe qui. Il parle à Timothée 1.20, Hyménée et Alexandre. 2 Timothée 1.15, comme tu le sais, tous ceux de la province d'Asie l'ont abandonné, tous. Entre autres, Phygèle et Hermogène. 2 Timothée 2.17, la parole de ces gens est comme une gangrène qui finit par dévorer tout le corps, en parlant des choses de Christ. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Ils se sont écartés de la vérité. 2 Timothée 4.9, efforce-toi de venir me rejoindre dès que possible, car Demas m'a abandonné. Il a aimé le monde. Il a aimé le monde présent. Il est parti pour Thessalonique. Alexandre l'orfèvre a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Personne ne veut m'assister. Tous m'ont abandonné. Et pourtant, certains de ces noms que Paul mentionne devaient être des responsables, devaient être des gens importants pour l'enseignement et pour animer l'effort d'évangélisation de l'époque. Paul sait à quel danger Timothée est exposé. Déjà, les fausses doctrines punissaient. Et déjà, l'amour du monde était une menace pour les chrétiens. Comme nous l'avons vu dans le film de l'Ascension jeudi soir, on peut être chrétien et on peut être tenté par le monde, par le plaisir du monde. Et nous, que nous dirait Paul aujourd'hui? Il y a des membres qui ne sont pas là aujourd'hui. Ils ne sont pas là pas parce qu'ils ont eu un empêchement, mais parce que et nous en connaissons tous, parce qu'il y en a qui ont abandonné. Alors veillons, restons attachés à notre vie chrétienne. Mais je vois dans cet appel à Timothée à tenir ferme, aussi un appel à être un exemple. Et j'étais stupéfait par Claude, toutes les superbes illustrations que tu nous as données, de l'importance d'être un exemple, parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui ressort dans ce verset-là, de veiller sur soi-même. Constantin disait hier d'être une lumière, hein, et puis Godefroy a parlé de la conduite exemplaire. Hein. En fait, dans chaque verset qu'on a vu traiter, il y a cette idée d'exemple, de manière explicite ou implicite, qui ressortait. Et vous savez, quand les leaders du monde, dans le monde, se conduisent bien ou pas bien, ça a un impact énorme. Claude disait qu'on est observé, on s'observe tous. Le président de la République fait 2 jours dans un yacht, tout le monde le sait. Quand les responsables de l'Église ont une faiblesse, si souvent ça amène une cassure dans l'Église, des divisions, une assemblée stagne. Mais aussi à l'inverse, par son bon exemple, à tous nos frères et sœurs qui sont en encouragement. Par exemple, dans nos années à Zurich, on a beaucoup profité d'un frère qui a été un témoignage de dévouement à l'enseignement de la Bible, Wolfram, qui était disponible 24 heures sur 24, qui mettait toute sa vie à disposition. C'était finalement presque plus convaincant sa vie que son enseignement. Et je pense aussi aux évangélistes missionnaires qui sont qui ont sacrifié une vie confortable dans leur pays d'origine et qui ont tout risqué, tout lâché pour venir se déraciner dans un environnement qui n'était pas leur habitat naturel. Et je pense ici aujourd'hui à Béel et Barbara, par exemple, qui depuis 37 ans, si je ne me trompe pas, sont en Europe francophone et travaillent pour l'évangélisation dans le monde francophone. Je pense à tous les autres, Charles et Pam et de nombreux qui sont là. Brady, l'exemple qu'il a donné, et j'étais touché par les paroles de Jordan, sur l'exemple d'amour de la parole qu'il a appris de Brady. Je pense à Greg, à Guy, Max, leurs femmes, leurs familles, ce qu'ils font ici. C'est des exemples extraordinaires pour nous. Je pense aussi à un frère que peut-être vous n'avez pas eu beaucoup l'occasion de voir, qui est Dwayne. Et vous demandez de stand up tout ça, surtout que ma vie, hein. Dwayne, pour ceux qui ne le savent pas, il a tout lâché. Il a appelé 21 ans en Indonésie pour prêcher l'évangile au milieu de la plus grande nation musulmane du monde, plus de 200 000 habitants. Il a pris des risques parce que vous savez que, malgré ce qu'il dit, c'est risqué d'être évangéliste dans un pays musulman. Il a attrapé la malaria, plusieurs sortes de malaria, m'a-t-il dit, et il a frôlé la mort à cause de ça. Je pense aussi à un frère d'origine africaine, qui est américain, avec qui j'ai vécu à Chicago. Il se levait tous les matins à 5 heures du matin pour prier pendant probablement une heure. Il avait son réveil, on était dans la même chambre, et tous les matins, ça me réveillait. Moi, j'avais pas la foi pour me lever pour prier, mais lui, il priait pendant une heure. Et puis ensuite, il prenait le métro, il allait au travail, et il prêchait dans le métro. Et il tombait sur ses voisins, il tombait sur ses collègues de travail, il tombait sur ses supérieurs, et il prêchait la parole. Il se levait comme ça, quand les portes étaient fermées, il avait une audience captive et il prêchait. Et c'est pour moi un exemple de courage et de foi que je n'ai pas. Et je pense aussi, quand je pense à des modèles, je pense aussi à ma grand-mère paternelle. Ma grand-mère paternelle qui est décédée il y a nombreuses années, mais qui était pour moi un exemple de bons sentiments. Jamais je ne l'ai entendu dire du mal de qui que ce soit. Elle n'était pas chrétienne au sens biblique du terme, mais elle cultivait beaucoup de valeurs chrétiennes dans sa vie. Elle avait une foi et elle m'a laissé un exemple extraordinaire de pouvoir vivre en voyant toujours le bien dans les gens, en donnant toujours aux gens le bénéfice du doute et en ne jamais médisant. Non, on ne le disait jamais. C'était une preuve vivante de vertu chrétienne. Et vous savez, il y a des encouragements comme ça dans la Bible. Pierre dit aux femmes mariées, et je crois que Claude, tu as mentionné ce verset. Je le répète parce que je trouve que c'est un très beau verset. Vous-même, femmes, soyez soumises chacune à son mari pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois, sans parole, par votre conduite. En observant votre attitude respectueuse et pure, par la conduite. La conduite, l'exemple modèle, peut être parfois tellement plus efficace que nos paroles, que l'enseignement qu'on peut donner. Et comme le suggère Claude, si nos vies sont en dissonance avec notre message, le message n'aura pas beaucoup d'impact. Notre vie est un message. Et c'est peut-être ça le plus grand défi, c'est en tout cas ça que je ressens personnellement dans la vie de tous les jours. C'est difficile. Est-ce que ma vie est un message? Trop souvent, je ne le pense pas. Et je le regrette. Et c'est un sujet de travail. Jésus dit à ses disciples, le monde vous reconnaîtra si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc comme disait Claude, on est observé. On peut faire la preuve par l'acte. Et puis finalement, si on réfléchit, cette idée d'exemple, Paul a Timothée tellement d'être un bon exemple, c'est l'essence de l'évangile. Parce que si l'évangile c'était juste une somme d'informations, Dieu aurait pu envoyer une Bible comme il avait la manne dans le désert. Il aurait pu envoyer des Bibles. Il aurait pu envoyer des emails. Il aurait pu faire un site internet, faire un clip vidéo, il aurait pu communiquer ses informations de manière différente. Mais il a choisi d'envoyer son fils en chair en os. Et c'est un grand principe biblique, c'est le principe de l'exemple. Il a été notre guide, notre leader jusqu'à la mort. Parce que rien ne remplace l'exemple. C'est la base de la foi chrétienne. C'est pour ça Soyez mes imitateurs, c'est ce que dit Paul aux Corinthiens, pour que, pour cela, je vous ai envoyé Timothée. Donc on voit que l'idée d'imitation soit reproduite de chrétien en chrétien. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, dit Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 11, 1. La projection de Sam, jeudi après-midi, m'a beaucoup touché. Il y avait une phrase que j'ai notée qui disait « Ta vie est une mission. » Donc Sam, C-O-M, pardon. « Ta vie est une mission. Es-tu prêt à l'accepter ?» Et on pourrait aussi dire « Ta vie est un message. Est-il cohérent avec l'Évangile ?» Et c'est la question qu'on peut se poser ce matin, c'est « Est-ce que nos vies sont des exemples ?» Timothée, veille sur toi-même, c'est ça que dit Paul. Et puis la deuxième chose qu'il lui dit, de veiller sur son enseignement. Et parce qu'il y a ces fausses doctrines que j'évoquais tout à l'heure. Il faut rester enraciné, comme disait Jésus, si vous êtes dans ma parole, si vous restez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc il faut la connaître, la parole. Et il faut la connaître, et comme disait Claude ce matin, il faut parfaire son enseignement. Il ne faut pas bâcler son enseignement. Et j'aime l'idée d'essayer de s'améliorer en permanence, même si ça fait des années qu'on donne des enseignements. Et je pense que quand Lévi nous dit à Timothée, soit persuasif, soit doux, mais soit ferme. Et le mot qui est utilisé didascalia en grec, ça donne didactique en français. Donc sois didactique. Le but, c'est pas que juste tu transmettes une seule information, mais il faut qu'elle soit reçue, comprise, acceptée, intériorisée. Donc sois didactique. Tu dois manier la parole, comme Paul l'expliquera aux Éphésiens, qui finalement étaient là, comme l'épée de l'esprit. Vous savez, il y a beaucoup d'armes qui sont mentionnées dans cet épître aux Éphésiens, mais l'épée, c'est pas une arme facile à manier. C'est peut-être la plus difficile à manier. Il y a au Moyen-Âge, je crois que c'était le travail d'une vie d'apprendre à manier l'épée. Au Japon, jusqu'au 19e siècle, c'était le travail d'une vie. C'était aussi une question du mort, de savoir la manier. Donc ça présuppose beaucoup d'entraînement, de manier l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Et il y a eu ce tournoi de football à Chafouz il y a quelques semaines. Bon, c'est toujours Paris qui gagne, mais quand même, j'ai entendu dire que l'équipe de Genève a gagné le prix de junior, je crois, et puis ils étaient deuxième pro, c'est presque le dernier. Et en fait, le tournoi de football, c'est un exemple, il fallait parler de football dans chaque message. Il y a eu beaucoup d'entraînement, tous les dimanches, par exemple, un dimanche sur deux, les jeunes ont été s'entraîner au football. Donc, il n'y a pas de miracle, le résultat, ça vient du travail. Et on parlait hier entre hommes de qu'est-ce qui fait le talent, etc. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu de talent. Moi, j'aime bien cette citation de Carol Anne, ce fameux chef d'orchestre. Il disait, le génie, c'est 10% d'inspiration, 90% de transpiration. Et je pense que c'est quelque chose peut-être que dit Paul à Timothée en d'autres termes. Alors, est-ce que nous entraînons assez à enseigner la parole? Notre rôle n'est pas uniquement d'être une courroie de transmission, de transmettre une information. Ton rôle, Timothée, nous dit Paul, ou ton rôle, Jordan, je pourrais dire, ou Constantin, ou Benjamin, ou vous tous, vieux ou jeunes, ou femmes ou hommes, nous tous, notre rôle est d'être un terme qui n'est pas dans la Bible, mais dont le contenu est dans la Bible, c'est d'être des multiplicateurs. Et c'est un grand principe biblique, la multiplication, à part l'exemple. Il y a un verset qui n'a pas été cité pendant cette retraite, mais je le trouve très fort, que Paul rappelle à Timothée dans sa deuxième épître, 2 Timothée 2:2, c'est facile à se rappeler. L'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance, qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Ça, c'est le principe de la multiplication. Enseigner à certains qui enseignent à d'autres, etc., et ça se multiplie. Et vous connaissez tous le calcul, qu'en fait, si, à partir de maintenant, dans les 3 mois qui viennent, nous arrivons à amener 2 personnes à Christ, nous sommes les instruments de Dieu pour amener 2 personnes à Christ, et que nous enseignons ça, ce que dit Paul à Timothée, transmet à des gens qui sont capables à leur tour d'enseigner à d'autres. et que ces deux autres aussi, après trois mois, font la même chose, eh bien, dans 8 ans et quelques, la terre entière est chrétienne. Les 8 milliards d'habitants seront convertis. Ça, c'est le principe d'une grande moutarde qui est tout petit, mais qui devient tellement grand. Même les avis du ciel viennent nicher. Alors, il n'y a pas que des amours qui peuvent enseigner, il y a aussi des amours, et puis il y a aussi des femmes. Et on voit que Paul est hiératique, il doit encourager les sœurs d'une certaine expérience à enseigner aux sœurs plus jeunes. Est-ce que nous pratiquons assez toutes ces choses? Et Paul dit plus loin, sois persévérant dans le verset. Et c'est important parce qu'il est clair que l'exemple du chiffre que je vous ai donné, tous les 3 mois, ça peut paraître très rapide. Mais bon, d'un autre côté, amener 2 personnes à Christ en une vie, c'est pas non plus surhumain. Mais ce qui compte, c'est de persévérer. Et la foi n'est pas un feu de paille. Il faut que ce soit un feu qui est le feu dans notre foi, mais qui dure. Hein, qui dure. Il faut être persévérant. C'est ce que Paul dit à Timothée. Aux Hébreux, l'Épître dit aux chrétiens qu'ils doivent courir avec persévérance. Parce que la foi, en termes athlétiques, c'est plus un marathon qu'un sprint. Et il y a des gens ici qui savent de quoi ils parlent, parce que des gens comme Camille, qui sont les spécialistes du marathon. Ils sont à 2 heures. Mais c'est combien? 40 km, tout ce qu'il est Camille. 40 km. Voilà, il y en a plusieurs, vous savez ce que c'est. Il faut tenir l'effort sur la durée. C'est pas un feu de paille. C'est vrai qu'on est jeune, souvent, on veut faire des choses incroyables, mais il faut que ça dure. Il faut arriver à faire l'effort dans la durée. Dans l'Apocalypse, il est écrit, chapitre 3, verset 10, à l'église, la Philadelphie, il dit, tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Tiens ferme, c'est la même idée. Reste attaché à ta vie chrétienne. Ne fais pas comme Phygèle, Hermogène, Hyménée, Philète, Démas, Crescens, Alexandre et tous les autres qui ont abandonné Paul. C'est affreux d'abandonner. C'est affreux. Et Paul nous dit de tenir ferme. Et il dit, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Ainsi tu te sauveras et tu sauveras ceux qui t'écoutent, selon ce don. Donc, le salut vient avec les œuvres. Hein. Mais c'est pas ce qu'on m'a donné. C'est pas ce que Paul dit aux Éphésiens 2, 8, 10. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On m'avait dit que c'était le sang de Jésus. Eh bien, on peut peut-être pour comprendre ce verset, se rappeler ce que Jésus parle. Ce que Jésus dit au sujet du sarment et du cep. Et si le sarment reste, on l'a signé sur le cep de la vigne, eh bien, il va porter du fruit. Mais si il est coupé, s'il se déchire du cep, il ne va pas porter de fruit. Mais non seulement il ne va pas porter de fruit, mais il va sécher. Et puis il sera brûlé, c'est ce que dit Jésus. Donc il faut veiller à rester attaché à Christ, au cep. Mais il faut être conscient qu'en restant attaché, nous devons porter du fruit, les fruits de l'esprit, toutes sortes de fruits selon nos dons et nos talents. Mais on sait aussi que, Jean Carlet nous en parlait hier, on sait aussi que Jésus nous a dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Donc ainsi, tu assureras ton salut. Mais est-ce nécessaire aussi pour sauver les autres de faire toutes ces choses? Quand nous enseignons finalement, pourquoi est-ce que nous le faisons? Est-ce que c'est pour avoir bonne conscience? Est-ce que c'est pour distraire ceux qui nous écoutent? Les divertir? Pour avoir la conscience tranquille? Pourquoi est-ce que nous persévérons Ça me fait un peu penser au bus sur le pont du Titanic. Et les témoins ont dit, vous savez, le naufrage du Titanic, vous avez peut-être vu le film, vous avez lu l'histoire. Et beaucoup de témoins ont dit que au moment où le navire avait déjà percuté l'iceberg, il y avait encore des mousses qui alignaient les chaises longues. Parce que c'était des chaises longues de première classe, il fallait que ça soit de bonne façon. Et puis, il y avait l'orchestre qui continuait à jouer. Alors que le navire avait percuté l'iceberg et qui prenait l'eau. Alors, nous sommes un petit peu dans cette situation. Notre vie, notre enseignement, c'est pas l'art pour l'art, c'est pas le divertissement. C'est un but bien précis, c'est pour se sauver et sauver les autres. En Romains 10, 13, 14, Paul dit « Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. » C'est la bonne nouvelle. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer? Moi j'adore ce verset qui est d'une logique implacable. Et puis j'aime bien aussi ce verset, aussi ainsi que le verset 17 où il dit la foi vient de la parole de Christ, parce qu'il y a quelque chose de magique dans la parole. Et je pense qu'on a tous vécu ça. On veut parler à des proches, on leur parle de la Bible. Comment c'est chez vous, qu'est-ce que vous faites, ça. Mais c'est souvent une discussion d'aide, c'est que en fait, quand on arrive à ouvrir la parole, il y a des versets qu'il y a cet effet incroyable sur les gens. La foi vient de la parole de Christ. Et il faut des gens pour l'annoncer. Et alors, ils seront sauvés. Veille sur toi, veille sur ton enseignement, persévère, c'est ça que dit Paul à Timothée. Et ainsi tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Vous savez, malgré sa jeunesse, malgré sa timidité, semble-t-il, malgré les obstacles énormes auxquels il devait faire face dans cette église fragile du 1er siècle à Éphèse, malgré toutes ces difficultés, il semble que Timothée, ça on le sait par l'histoire plus que par la Bible, il semble que Timothée ait bien travaillé pour le Seigneur, parce que dans cette ville où Paul et les premiers chrétiens ont été violemment accueillis par ceux qui adoraient le culte d'Artemis, il semble que plus de 200 ans après cet épître, il y avait tellement de chrétiens que l'hôtel de ville de la ville a été converti en église chrétienne. Vive l'effet multiplicateur. Hier, David, ou avant-hier, je ne sais plus, David lui, nous parlait du retour du Seigneur. Et il est vrai qu'on n'en sait rien quand on viendra. Et je ne peux pas vous prouver mathématiquement, mais intuitivement, je me dis que si c'était déjà imminent il y a 2000 ans, je pense que c'est encore plus imminent aujourd'hui. C'est logique. Mais notre logique, ce n'est pas toujours celle de Dieu, mais c'est ma conviction. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Alors le contexte de Timothée est tellement différent du nôtre. Chez lui, c'est Paul qui devait revenir, jusqu'à ce que je vienne, je attends Paul. Pour nous, jusqu'à ce que je vienne, c'est Jésus. Mais en dehors de ça, les défis auxquels il devait faire face, les risques auxquels il était exposé, finalement c'est les mêmes pour nous aujourd'hui, qu'on soit jeune ou vieux, ou femme ou homme. Et nous sommes appelés à la même persévérance. Et l'excellente nouvelle que nous avons est que nous devons nous remémorer chaque jour, et en particulier dans les moments difficiles de la vie, et il y en a, et il y en aura. Et cette même promesse qui a été faite à l'église de Philadelphie, je vous le disais il y a 2 minutes, « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. » Ici, il y a 5 mots que j'aimerais vous garder en mémoire de ce 8e message de Petit Suisse, c'est ceci, « Je viens bientôt, tiens ferme. »